monde en jase à Boulevard 102.
13h12 minutes à l'émission En jase sur Boulevard 102.1. Cette radio d'extrême centre. 418-971-101 pour nous rejoindre. BLVD.fm, ce sera les meilleurs moments de notre émission immédiatement après l'émission qui vont être déposés là. Et c'est la web radio. Venez nous voir également sur twitch.tv/BLVD/FM et je le dirai jamais assez. Téléchargez notre application BLVD 102.1 sur App Store, Google Play Store. Vous pouvez nous écouter où que vous êtes. Pascal, écoute bien ceci.
Pajot devant Dano. Et qui aura la rondelle finalement, c'est Holmstrom. Et Pajot qui s'amène. Pajot devant le filet, la fête, le tir et le but! Jean-Gabriel Pajot marque le but gagnant et les Islanders, deux fois, sont venus de l'arrière et vont quitter le Centre Bell avec la victoire au grand sourire de leur entraîneur.
Jean-Michel Pajot.
Jean-Gabriel Pajot.
C'est pourquoi c'est la première fois que j'entends ce nom-là?
C'est pas un joueur qui marque nécessairement beaucoup de buts, mais c'est un gars qui roule sa bosse dans la Ligue nationale. Et justement, pour en parler avec nous, on a notre chroniqueur sportif, également journaliste au 99.5 Montréal, Alex Laramé. Alex, t'es-tu remis de la défaite?
Ben oui, écoute, une défaite en prolongation quand même. On va chercher un point. Là. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait définitivement pu être mieux quand même.
Ah, exactement. Du côté du Canadien, on a échappé deux avances, ce qui a fait en sorte que Patrick Roy et sa bande des Islanders est reparti tout sourire. Mais on a eu tout qu'un spectacle, Alex, parce que Noah Dobson, l'ancien des Islanders, a marqué deux buts contre son ancienne équipe. Les Islanders ont échangé Dobson au Canadien parce qu'il venait de repêcher le jeune Matthew Schaefer. Et à 18 ans, il nous a encore écarquillé les yeux, avec lui aussi une performance de deux buts.
Ouais, Dobson qui marque deux buts contre son ancien club. On dirait que c'est souvent quelque chose qu'on voit, les matchs revanche, là, ouais. Lorsque les gars affrontent leur ancienne équipe. Souvent, ils ont des très bonnes performances. Puis ça a été le cas de Noah Dobson, qui n'a pas hésité à prendre des tirs, hein, notamment son premier but. On avait une force d'attaque chez le Canadien, mais il a décidé de prendre le tir. Ça a été la bonne décision. Il a marqué. Puis oui, tu l'as dit, je pense que ce qu'on retient du match d'hier, c'est Matthew Schaefer. Il a 18 ans, là. Puis un vrai 18 ans, là, il va seulement avoir 19 ans au mois de septembre. Le kid est impressionnant, puis c'est ça que je parlais avec mes amis hier, c'est un vrai premier choix au total. Là. C'est un gars qui a transformé la franchise des Islanders parce que, entre toi et moi, là, ça s'en allait nulle part, les Islanders. Ils ont une équipe remplie de vétérans. Si tu regardais leur line-up, tu sais, Bo Horvat, Matthew Barzal, c'est bien, mais après ça, des Jonathan Drouin, des Endersley, des Simon Holmstrom, Cal McLean, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Mais ce gars de 18 ans-là a redonné une fougue à cette équipe-là qui était plus du côté vétéran, puis deux buts pour lui hier. Non, ça a été toute une performance du jeune.
Même impact que Cal McCarr pour son équipe.
Ah ouais, selon moi, on est dans la même trempe de défenseurs. Là. C'est un gars, évidemment... Il y a eu les Jeux olympiques, on regarde ça. Est-ce qu'on l'aurait pris avec Team Canada? Peut-être, mais bon, à 18 ans, c'est un petit peu jeune, mais c'est sûr et certain qu'en 2030, il va être de l'équipe canadienne. Il va avoir 22 ans, il va être dans son prime. Déjà 4 années qu'il va avoir sous la cravate. Mais non, définitivement, c'est le genre de défenseur, justement, qui change complètement une organisation, comme tu l'as dit, comme Makar a fait avec le Colorado.
Parle-moi pas là-dessus. Hier, j'étais avec des chums à cage au sport. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, on s'est passé de Schaefer, on s'est passé de Connor Bedard, on s'est passé de Wyatt Johnson, puis on a marqué un but en finale.
Non, c'est exactement. surtout quand tu regardes la brigade défensive qu'on a amenée, tu sais, j'ai rien contre des Perico puis des Sondheim, mais on a vu Schaefer hier, c'est pas le même genre de défenseur du tout. Puis Schaefer, selon moi, est dans une qualité puis une classe à part là, de ses défenseurs.
Canadien va jouer samedi au Centre Bell contre les Capitals de Washington avant un voyage dans l'Ouest américain. Tu t'attends à quoi du tricolore?
Ben écoute, selon moi, il faut aller chercher les deux points en fin de semaine. On est à domicile, tu l'as dit, après on quitte pour un voyage. Ça va être Dobesch qui va être devant le filet, là. Ça n'a pas été confirmé par le Canadien, mais Saint-Louis a dit plus tôt cette semaine qu'il voulait donner de l'action à ses deux défenseurs, à ses deux gardiens en fait, pour les remettre dans le bain là, après la pause. Fait que c'est sûr que ça va être Dobesch. Selon moi, c'est primordial d'aller chercher les deux points, mais les Capitals, c'est difficile. Hein? Évidemment, on se souvient de la série l'an passé, ils nous ont battus en 5. On dirait que dans les dernières années, tu sais, un club physique, là, les Capitals, donc ce sera pas facile, mais faut que le Canadien donne tout. Puis hier, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. C'est le 5 contre 3 qui a fait très mal. Après, on a donné un but en fin de rencontre. Le tir a dévié sur Endersley directement comme sur son chest au final. Qu'on a joué un petit peu de malchance aussi en fin de match, mais contre Washington, il faut sortir le gaz au bout, puis il faut aller chercher 2 points.
Excellente nouvelle pour la ville de Trois-Rivières. Le Canadien va présenter un match préparatoire le 21 septembre prochain contre les Sénateurs d'Ottawa. La cabane à 5000 va être remplie à pleine capacité.
Ben ouais, c'est ça, à Trois-Rivières, ils ont un nouvel amphithéâtre là-bas. Ce qui paraît, c'est super beau, là, j'ai jamais été.
Vraiment, je suis allé une fois voir les Lions de Trois-Rivières, c'est vraiment beau. Ben écoute, c'est pour les gens de Québec, là, c'est un centre Vidéotron, mais à 5000 places. Mais c'est fait exactement pareil.
Ah, ben tu vois, ben c'est ça. Fait que ça va donner un bon avant-goût, justement, pour les gens de Trois-Rivières, là, de pouvoir voir le Canadien qui va se déplacer là-bas. Puis je trouve ça le fun que le Canadien accepte, justement, d'aller dans des places de même. Je pense que c'est bon pour le hockey d'essayer de développer des marchés. Parce que Trois-Rivières, c'est pas très loin de Montréal. Hein, fait que si on peut montrer un peu le genre de joueur, ouais, ça va inciter justement aux gens de descendre à Montréal. Fait que non, super belle opportunité pour les gens de Trois-Rivières.
Vraiment, Alex, on parle du mal-aimé d'Équipe Canada qui, hier, a connu une excellente soirée. With backside coverage on Byfield, the puck comes free to McDavid, still sitting on 99 points, drop pass, Draisaitl shoots and scores, and there's 100 for McDavid and 30 for Draisaitl. Déjà 100 points pour Connor McDavid, déjà 30 buts pour Leon Draisaitl, le monstre à deux têtes a frappé, victoire de 8-1 des Oilers sur les Kings hier.
Ouais, c'était une totale dégelée là, des Oilers contre les Kings, là, déjà une 9e saison de 100 points là, pour Connor McDavid qui fait 100 points en 60 matchs.
C'est hallucinant.
Ah non, tu sais, on peut questionner son habileté de gagner. T'sais, oui, il a perdu 2 fois en finale de la Coupe Stanley, perd la médaille d'or, mais ça reste le meilleur joueur de hockey sur la planète en ce moment. Selon moi, c'est même pas proche. Ce qu'il fait sur la glace, il n'y a personne qui est capable d'imiter ça. Il y en a qui parlent de Gavin McKenna là, au prochain repêchage. Là, je vais le croire quand je vais le voir. Là. Mais non, définitivement, McDavid est capable de transporter un club, mais dans les grands moments, il manque encore un petit quelque chose. Mais c'est un sport d'équipe, hein, fait qu'il peut pas le faire tout seul. Mais hier, super belle performance. Puis, en tout cas, je ne souhaite pas une autre série Oilers-Kings, parce que si ça a l'air de ce que ça avait l'air hier, je pense qu'on peut miser notre argent, c'est Oilers.
J'ai l'impression que les Kings ne seront tout simplement pas les séries. Ça pourrait être une série Oilers-Doc Zanheim. Par contre, ça serait très intéressant. Ça serait très offensif comme série. On a parlé beaucoup d'Équipe Canada en disant « Ah, oh, on aurait aimé Matthew Schaefer. Ah, oh, les gens ont critiqué trop Connor McDavid. » Mais les journalistes canadiens n'ont pas été tendres envers Austin Matthews et Brady Tkachuk. On a pratiquement forcé Brady Tkachuk à s'excuser pour les commentaires de Donald Trump. Écoute, il peut pas contrôler le président américain. Puis on a milité pour enlever le site capitaine Austin Matthews. On va-tu trop loin du côté des journalistes canadiens?
Mais moi, je pense que oui, parce que, tu sais, Austin Matthews, l'étiquette qu'on lui a collée, c'est justement que c'était pas un leader, il était pas capable de gagner. Mais là, il a gagné la médaille d'or avec Team USA. Fait que je pense que cette étiquette-là, ça va être à revoir un petit peu. Puis c'est difficile, hein? L'étiquette de capitaine, c'est vraiment quelque chose qui est dans la chambre. Hein? Fait que nous, en tant que partisans, c'est difficile de savoir qui est un bon ou mauvais capitaine. C'est tous des trucs qu'on voit pas. Fait que moi, de voir les médias attaquer sur ce point-là, moi, je trouve que c'est vraiment mal placé. À moins qu'il y ait des informations comme quoi, justement, il ne mérite pas ce C-là. Mais avant, le C à Toronto était à John Tavares. Il est resté avec l'équipe. On l'a donné à Matthews. Ça n'a pas créé de commotion à l'intérieur du vestiaire. Fait que visiblement, c'était une décision qui était appréciée des joueurs aussi. Puis du côté des Tkachuk, ben écoute, Brady Tkachuk, son désavantage, c'est qu'il joue au Canada. Matthew Tkachuk n'a pas dealé avec ça maintenant.
C'est ça.
Qu'il ne joue plus avec Calgary. Mais les Tkachuk, ils sont polarisants. Hein, t'sais, on va les haïr, on va les aimer s'ils jouent pour notre club. Là, les journalistes ont décidé de s'attaquer à lui, justement, vu qu'il joue au Canada puis que c'est quelqu'un de très, très, très polarisant. Ça fait les manchettes. Mais selon moi, tu sais, faut se calmer, là, je veux dire. Il était avec son pays. Après ça, il y a tout le côté politique, là, mais bon. Moi, j'ai envie de séparer la politique puis le sport.
Parce que Nathan MacKinnon aurait gagné la médaille d'or et aurait fêté. Mark Carner aurait appelé dans le vestiaire puis aurait dit « Ah, ils ont battu les Américains! » Il n'y a pas un journaliste au Colorado qui aurait fait une histoire avec ça, là, tu sais.
Ben non, exactement. T'sais, c'est vraiment pas une tempête dans un verre d'eau, mais c'est vraiment un truc canadien que le hockey prend beaucoup d'ampleur puis qu'on décide de fouiller les fonds de tiroir pour trouver des histoires. Là. Mais selon moi, regarde, c'est chose faite. Ils ont gagné la médaille d'or. Ils ont fait leur truc avec Trump. C'est leurs affaires. Ça les regarde. Maintenant, on se concentre sur le hockey de la Ligue nationale. Puis si j'étais un partisan d'Ottawa, ben j'encouragerais Brady Tkachuk à bien performer pour mon club au lieu d'y taper sa tête.
Exactement. Alex Laramé, toujours un bonheur de te parler. On se reparle lundi pour parler du Canadien, du match de samedi et de la semaine qui s'en vient.
Certainement, je vais être là.
Excellent, salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramé, excellent journaliste au 99.5 Montréal qui fait des chroniques sportives dans l'émission On en jase. Pascal, avant de recevoir nos deux invités où on va parler d'itinérance, parce que croyez-le ou non, ça explose encore plus à Saint-Roch, on va recevoir Marie Liplante qui est coordonnatrice pour le regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec et Frédéric Rivet, qui est organisatrice communautaire. Qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité?
Plusieurs choses. D'abord, on s'entend, on est dans le procès de cet homme qui est au Palais de justice de Québec, qui était coach de cheerleading. Mm-hmm. Alors, on va avoir encore plus d'informations au courant des prochains jours, mais il y avait dans les dernières heures le témoignage d'une présumée victime. Alors, elle s'est dit présumée victime de deux coachs à 14 ans, à ce moment-là, au moment des faits. Elle dit que sa première fois où elle a eu une relation sexuelle, était finalement dans un trip à trois. On a eu Pierre-Paul Biron un peu plus tôt à l'émission. Ça va être possible de reprendre l'entrevue au site de blvd.fm. Mais c'est une affaire que tout le monde suit, je pense, avec beaucoup d'assiduité. Sinon, sondage réalisé pour le Parti québécois. On dit que les Québécois veulent réduire l'immigration. Alors, ce serait une tangente effectivement politique que tout le monde en parle. C'est un sondage qui a été brandi par le PQ aujourd'hui. Alors, c'était dans la nouvelle. Un petit compte-rendu aussi de ce qui s'est passé hier contre une frappe contre le BFM à Montmagny. Il y a eu 10 arrestations, de la drogue et des armes de saisie. C'est assez gros comme frappe hier qu'on a réussi à faire contre ce réseau-là, la Blood Family Mafia. Pas moins de 10 suspects qui ont été arrêtés grâce à l'intervention d'environ 50 policiers. Je pourrais faire un clin d'œil aussi à Bill Gates, qui était du côté de la commission d'enquête de l'affaire Epstein. Il dit « Je n'ai rien vu, je n'ai rien fait » et on réclame encore le témoignage de Donald Trump à ce niveau-là, après celui d'Hillary Clinton hier et celui de l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton, aujourd'hui. Peut-être que je pourrais terminer avec cette nouvelle-là. Le Nord est fort, fort, fort intéressant pour les États-Unis et même bien d'autres au niveau de l'international. Jeff Bezos et Bill Gates s'intéressent aux minéraux de la Baie James et du Nunavik. Donc, ils ont investi dans une société d'exploration de la Silicon Valley et on cherche du cobalt et on cherche du lithium. L'année passée, je revenais ou je partais là, pas mal dans ces eaux-là au Nunavik et j'ai une journée complète de conseils de bande où on parle de ça parce qu'on veut, oui, avoir une mine qui va aller extraire, parce qu'on est très riche au niveau de ces minéraux-là dans le nord du Québec, mais on est un peu en urgence parce que les autres s'y intéressent. Comment est-ce qu'on fait ça, mais en même temps, on préserve le territoire? C'est une grosse question en ce moment, Nunavik.
En effet, ça va être très, très, très intéressant à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Après la courte pause, on parle de cette explosion. Oui, vous comprenez bien, explosion à nouveau d'itinérance dans Saint-Roch. Plus de 50 personnes par soir ne trouvent pas place dans les refuges qui sont à pleine capacité, donc couchent dehors en plein hiver. Marie Liplante, coordonnatrice pour le regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, c'est-à-dire le RAIC, sera avec nous, ainsi que Frédéric Rivet, organisatrice communautaire. C'est dans un instant, on en jase sur Boulevard 101.